avec Benoît Marchal.
Bienvenue pour cet épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Hervé Lewandowski. J'ai toujours beaucoup de plaisir à discuter avec Hervé. Je trouve que c'est quelqu'un qui a l'humilité du savoir. Il parle des choses qu'il connaît avec à la fois intelligence et simplicité. Je crois que vous allez apprécier, moi je trouve ça très agréable. Une mise en garde. On a enregistré cette émission il y a presque un an. Donc tenez en compte pour certaines dates et pour certaines références temporelles. Avant de laisser partir l'interview, quelques mots sur l'offre Déclencheur Gold. Vous avez été nombreux à réagir, beaucoup de remarques positives, d'encouragement, je vous remercie, mais aussi des questions. Et à ce sujet, je voudrais rappeler que l'offre a été construite autour des demandes les plus fréquentes qu'on a reçues. Par exemple, je crois qu'une des demandes les plus fréquentes sur Déclencheur, c'est de vous proposer plus d'émissions, plus de variétés et plus d'émissions longues. Je ne compte plus le nombre de mini sur lesquels on a commenté, mais ça mériterait une émission plus longue. Eh bien maintenant, vous avez le choix. Et on s'apprête à produire plus de deux fois plus d'émissions qu'hier. Et une autre demande récurrente par les utilisateurs d'iPod et d'iPhone en tout cas, c'est de chapitrer ces émissions. C'est le cas aujourd'hui pour les émissions Déclencheur Gold. Alors je ne vais pas reprendre ce sujet point par point, mais j'ai résumé tout cela dans une note sur www.déclencheur.com. Je vous invite à la parcourir et à réagir.
Bonjour Hervé.
Bonjour Benoît.
Je suis avec Hervé Lewandowski, qui est beaucoup de choses. Tu es photographe.
Photographe d'œuvres d'art en fait. Spécialisé dans les œuvres d'art.
C'est-à-dire que tu photographies des œuvres d'art, leurs tableaux, sculptures, etc.
Sculptures, bijoux, mobilier, objets d'art, donc, qui se trouvent dans les musées et la plupart du temps dans des musées nationaux. Donc les grands musées français, le Louvre, Orsay, Versailles, pour simplifier. C'est vrai que le contemporain, j'en fais très très peu. Les plus modernes que je photographie viennent du musée d'Orsay, donc c'est 1870-1914.
Et je disais plusieurs cordes à ton arc, parce que tu es aussi le rédacteur de la section technique du magazine Photo.
En effet, c'est ça. J'ai commencé à travailler pour le magazine Photo il y a une vingtaine de numéros. Donc ça fait un peu plus de deux ans.
Alors, on s'était dit que ce serait intéressant de discuter ensemble un petit peu de l'évolution du matériel, parce que forcément, dans ce genre de travail, il y a quelques années, tu travaillais à la chambre, puis t'es passé avec le numérique au moyen format, et puis là...
Là, juste à côté,
on a vraiment une évolution autour de tout ça.
En fait, donc, j'ai commencé en 1989 à faire des photos dans les musées. Ben, le matériel que j'avais à disposition, c'était une chambre Cynar équipée d'un format 13-18. Le problème du 13-18, c'était la lourdeur du matériel et puis le fait qu'il n'y ait pas de Polaroid.
Alors pour qu'on situe la chambre Cynar, parce que tout le monde ne voit pas nécessairement ce que c'est,
Des grands soufflets avec deux corps mobiles qui relient le grand soufflet. Et devant, il y avait aussi un autre soufflet pour abriter l'objectif et tenir le compendium. Donc le compendium qui est le pare-soleil, mais sur une Cynar qui est réglable au millimètre près.
Donc c'est l'héritier direct des appareils photo d'il y a deux siècles.
Oui, de l'invention de la photographie.
Ouais, les grands soufflets.
En 2001, on a totalement abandonné le format 4-5 inch, mais on a quand même gardé quelques pellicules qui étaient faites avec un Mamiya RZ, donc sur du format 6 cm sur 7. Il y a eu une dizaine d'années pendant lesquelles il y avait les deux formats qui cohabitaient et qu'on utilisait suivant la taille de l'objet photographié. Donc pour des grands tableaux comme les Noces de Cana, par exemple, bien sûr, c'était évident. Il fallait utiliser du 13-18 et pour des petits dessins, on utilisait du 6-7 pour aller plus vite, augmenter la productivité et essayer quand même de garder une certaine qualité.
C'est un petit peu surprenant de se dire qu'on utilisait encore au début du siècle un appareil dont le design a deux siècles. Donc les atouts de ce genre d'appareil, en deux mots, c'était quoi ?
Les atouts de la chambre, c'était de pouvoir moduler son plan de netteté, choisir son plan de netteté. Une chambre permettait de récupérer de la netteté sur des plans inclinés. On a devant nous une tasse, ça permettait par exemple d'avoir la mousse du chocolat qui était nette. Chose qu'on ne peut pas avoir avec un appareil habituel.
Non, parce qu'avec un appareil habituel, on aurait peut-être la bande centrale de la mousse qui serait nette, mais la partie plus proche de nous serait floue,
et plus loin,
la partie plus loin serait floue.
Également.
Et là, on pourrait avoir tout le dôme net, mais alors le flou se déplace sur la...
De haut en bas, dans ce cas-là.
De haut en bas.
Deuxième chose intéressante avec une chambre, c'était pour récupérer des défauts de perspective, pour ne pas déformer des bâtiments. Donc on se servait du décentrement. Ça, on peut le retrouver aujourd'hui sur des appareils réflexes qui possèdent aussi une gamme d'objectifs à décentrement.
deuxième intérêt quand même, la résolution.
Alors ça permettait bien sûr aux graphistes de partir d'un film énorme et par exemple à partir d'un tableau, de pouvoir recadrer sur une partie du tableau et tout de même de pouvoir faire un poster.
L'inconvénient...
L'inconvénient du 13-18, c'était qu'on n'avait pas de Polaroid, ce qui fait qu'il fallait créer son éclairage mentalement, on va dire. On faisait un éclairage au flash, je le précise, donc invisible sous une verrière d'un musée. Et il fallait, pendant des minutes et parfois des heures, mesurer avec une cellule et un spotmètre la répartition de la lumière sur une sculpture, par exemple. Et le problème dans les musées, c'est qu'on ne peut pas refaire les prises de vue. Elles doivent être systématiquement réussies parce que les gens nous font confiance et on ne va pas pouvoir revenir une deuxième fois pour les refotographier puisque ça implique des déplacements d'œuvres et des risques à prendre pour l'œuvre. Là, pour la Joconde, j'avais 30 minutes pour faire l'image. Et on peut refaire l'image que tous les 5 à 6 ans. Donc il ne faut pas se rater et il faut aussi avoir le respect des gens qui vont sûrement acheter les cartes postales, posters et autres. Donc il faut être le plus soigneux possible. D'où l'intérêt, on va retomber peut-être sur nos pieds, du matériel le plus performant possible. Donc une fois que l'œuvre est bougée, il faut que la photo soit réussie. Sinon, le photographe disparaît du monde des musées, pour être clair.
D'accord.
Donc, entre-temps, on est passé sur du 4-5 où on a commencé à goûter au Polaroid.
Ok, donc, passage intermédiaire pour introduire le Polaroid, et puis on arrive au numérique.
Voilà. La révolution n'est pas venue de l'instantanéité, parce qu'on l'avait avec le Polaroid. Elle est venue du fait qu'on pouvait aller beaucoup plus loin dans l'image. Aucune fois, on a eu le moyen de détourer, ne serait-ce que ça, de détourer une sculpture qui est posée sur une planche de bois ou sur une palette de bois. Il fallait qu'on emmène des fonds énormes pour cacher des parties du musée. Aujourd'hui, avec le numérique, on va pouvoir simplement tout détourer et donner une image propre au client.
Mais ça, c'est pas lié à la prise de vue numérique, ça c'est lié au post-traitement. Tu pourrais le faire avec un film.
Le problème, c'était que les seules personnes qui, il y a 10 ans, voulaient bien faire du détourage, c'était les gens qui faisaient le bouquin. Ce qui fait que ça coûtait très très cher. Ça empêchait parfois le graphiste d'acheter les images parce qu'il savait que derrière, il allait avoir beaucoup de travail à faire.
D'accord.
Alors qu'aujourd'hui, le photographe va pouvoir le faire et donner une image directement propre qui va être imprimée directement.
D'accord. Pourquoi changer ? Donc, le détourage ?
Le détourage et puis aussi la peur, hein, tout simplement, de perdre les films. Et qui dit perte de films, ça veut dire perte de savoir. À partir du moment où Polaroid a arrêté de fabriquer des films Polaroid, on a arrêté d'avoir l'instantanéité dont on avait besoin pour juger notre image et notre éclairage. On a anticipé. Donc il a fallu passer au numérique en se disant les ventes de Polaroid sont en baisse, les ventes de films Kodak sont en baisse, les ventes de films Fuji sont en baisse. Les émulsionneurs vont peut-être finir par arrêter. Les constructeurs de machines comme Autopan vont arrêter de faire des machines pour le développement de l'E6. Il fallait garder un moyen de production, quoi.
D'accord, c'est marrant parce que ça rend la prophétie autoréalisante, dans le sens où, parce qu'on quitte le marché, on contribue aussi à l'assécher.
C'est vrai aussi, mais qu'est-ce qu'on fait si on ne l'assèche pas? Et malheureusement, d'autres l'ont fait aussi. Eh bien, on se retrouve... on va dire au chômage, ou à la rue, ou au bord du chemin, tout simplement. Donc, l'idée, c'est toujours de garder les pieds dans le bon chemin pour continuer son petit bonhomme de chemin jusqu'à la retraite.
Alors, une des grandes questions qu'on débat encore, même aujourd'hui, ça m'étonne, c'est de dire, oui, mais attention, les solutions numériques n'offrent pas la qualité suffisante pour les travaux exigeants, etc. C'est quand même assez exigeant, la reproduction d'œuvres d'art. Donc, comment ça s'est géré, cet aspect-là ?
Donc, il y a eu des grandes crises. Il y a eu des grandes crises avec des gens qui s'appellent des conservateurs et qui sont là pour conserver des œuvres, mais aussi une manière de travailler. Chaque image générait un tirage qui était fait sur papier baryté quand c'était un noir et blanc et sur des beaux papiers couleur quand ils le désiraient aussi. Et il faut savoir que c'est en particulier ces papiers barytés montre l'évolution d'une œuvre au cours de l'âge de l'œuvre. Quand une œuvre rentre en collection, elle est photographiée pour la première fois, et puis au bout de 25 ans, il faut savoir comment elle a évolué, si elle a été bien conservée, si elle s'est abîmée, si elle s'est empoussiérée, si les vernis, dans le cas d'un tableau, ont jauni. Et donc, une des méthodes pour juger l'évolution, c'est de juger sur un même tirage fait sur le même support Et donc, il fallait qu'on soit pérenne aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'on puisse capter en numérique et qu'on puisse montrer un résultat sur papier barité ou à aspect barité. Mmh. Et donc, ça freinait des quatre fers pendant quelques années pour être sûr d'avoir un bon résultat. Aujourd'hui, tout ce qui est côté noir et blanc, grâce à l'aide de constructeurs de machines, d'imprimantes, de lambda et de papier surtout, et pour ce qui est de la restitution des couleurs, eh bien, je pense que grâce à des solutions de calibration, grâce à des profils ICC créés au moment de la prise de vue, on a des meilleures couleurs que jamais. Mmh. Donc pour moi, il n'y a plus beaucoup de problèmes avec le numérique. Hein. La seule évolution qui reste encore à faire, bien sûr, c'est de faire des gros fichiers, énormes fichiers, et sinon, bah, c'est le seul souci qui reste.
Sinon, même quand tu parles de profil, etc., tu as même l'air de dire qu'en termes de qualité, sur certains plans, en tout cas, il y a même eu des progrès.
Ah bah sur la restitution des couleurs, ça n'a rien à voir avec la pellicule. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des tests de prise de vue avec des plans film les plus neutres du marché, bien sûr filtrés pour que les gris soient gris, et on a systématiquement des erreurs de restitution de certaines couleurs. Erreurs dues au spectre d'absorption des colorants qui étaient dans les films.
D'accord.
Aujourd'hui, tout ça s'est maîtrisé à condition de bien caler sa chaîne graphique. C'est-à-dire qu'on prend des chartes de chez Macbeth et donc on va faire mouliner un petit logiciel qui va créer une table de concordance entre ce qui est réel, les colorants de cette gamme, et comment le capteur les voit. Et donc, il va corriger tous les défauts de vision.
Ça, pour justement arriver à un rendu des couleurs aussi fidèle à la réalité.
Le plus fidèle possible. On ne va pas dire qu'on peut tout restituer, mais on peut restituer bien plus qu'un espace qui s'appelle l'Adobe 98. Donc, les capteurs, aujourd'hui, voient plus de couleurs que, en tout cas, ce qu'on peut afficher sur un écran d'ordinateur et, bien sûr, imprimer, puisque les espaces de couleurs des imprimantes sont beaucoup plus petits que de l'Adobe 98.
D'accord. En continuant la discussion sur l'évolution du matériel, donc aujourd'hui, vous utilisez essentiellement du moyen format. Donc moyen format pour Constitut, c'est Hasselblad, c'est Mamiya, ce sont ces constructeurs-là.
Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi un relais qui a été racheté par une marque de dos. Donc, pourquoi utiliser des moyens formats? Parce que tous les dos numériques, donc moi, j'utilise un dos numérique, il y a de 33 millions de pixels aujourd'hui et peut-être de 56 dans 2 à 3 mois, ont des formats qui font 36 mm sur 48 mm, voire plus gros pour les nouvelles générations. Ce qui fait que bah, ça, il faut le monter soit sur un moyen format 4,5-6, soit sur des formats, moi, j'utilise un 6,7 de chez Mamiya. Comme les capteurs sont plus grands, ils sont plus riches en pixels. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a besoin de beaucoup, beaucoup de pixels, de fichiers très, très gros, pour répondre aux besoins des maquettistes qui nous demandent des choses un petit peu délirantes. Un des derniers exemples, c'était un projet de reconstitution à taille réelle des tableaux des nymphéas peints par Manet qui sont exposés à l'orangerie. Il faut savoir que c'est des tableaux qui font 2 mètres de haut et puis les largeurs varient entre 6 et 12 mètres. Donc pour les réimprimer au même format, eh bien il faut des fichiers énormes, qui montent jusqu'à 1 à 3 gigas. On fait plusieurs photos, donc à chaque fois on shoot 100 mégas et puis on raboot, on fait un peu du panoramique. Quoi.
Oui, j'allais dire, c'est un peu comme le panoramique, mais bon.
Mais sur un tableau. Donc ça marche pas trop mal. On était arrivé jusqu'à 500-600 mégas et à première vue, ça suffisait encore pas pour les besoins.
Dans cette évolution-là, tu es arrivé avec un D3X.
Moi, j'ai toujours des envies d'alléger mon matériel. Depuis que j'ai commencé à la 13-18, je trouve que c'est bien. Plus c'est léger, mieux c'est. Donc, en regardant des tests et puis en voyant l'évolution des réflexes, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, disons que des réflexes très haut de gamme ont quand même certains avantages. Celui de travailler avec moins de lumière qui est besoin et nécessaire pour des dos numériques. Et comme systématiquement toutes les images que je fais sont rééclairées, ça me permet d'amener moins de lumière. Donc d'avoir des flashs plus petits, donc de porter beaucoup moins. Après, il faut savoir si ces nouveaux appareils plus légers ne sont pas trop gadgets. Ben aujourd'hui, à première vue, enfin, même pas à première vue, j'en suis à une centaine de prises de vue que j'ai analysées dans tous les coins. C'est vrai qu'on a un appareil qui est beaucoup plus maniable, qui a un autofocus, alors que sur les moyens formats, la plupart du temps, ben, soit on a un autofocus, mais on va le chinter parce qu'il est trop lent. et souvent ils se trompent. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si un objectif a un pouvoir de résolution assez important pour garder une image nette sur des tout petits pixels qui font 6,2 microns, je crois.
Et qui, d'après Nikon, ne sont pas tellement plus petits que les pixels qu'on trouve sur un dos numérique.
Voilà, c'est 6,8, entre 6,8 et 9 microns sur les dos numériques. Donc c'est un petit peu plus petit, ça va être à peu près la même taille que sur les nouvelles générations de dos numériques, mais générations qui ont 56 millions contre 24 pour les plus performants des réflexes.
Mais tantôt, quand on a discuté, tu n'as pas mis la résolution comme étant le premier des attributs que vous recherchiez.
C'est un ensemble, c'est compliqué un métier. Il y a des nouvelles images que j'aimerais bien créer parce que utiliser un moyen format, ça oblige à être statique, à travailler sur un pied. En réflexe, on peut commencer à être à main levée, à se baisser plus bas, à peut-être monter plus haut sur des échafaudages, sur des toits de musées pour aller prendre des détails. Le seul bémol pour le moment, c'est qu'il faut se contenter sur des appareils à plus de 20 millions de pixels d'utiliser des focales fixes parce que les zooms ont toujours des défauts suivant une défocale.
On entend beaucoup le débat focale fixe, zoom est un petit peu derrière nous.
Il est derrière nous sur des capteurs qui ont peu de résolution, mais je pense qu'il va revenir d'origine sur des capteurs de 20 millions et plus.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a besoin de plus de résolution sur une optique pour couvrir en plus un gros capteur, entre guillemets, qui fait 24 mm sur 36 mm. J'ai fait la reproduction d'une petite estampe qui fait 30 cm de haut sur une quinzaine de centimètres de large. Une petite estampe japonaise, très sage d'ailleurs, il n'y avait rien d'exotique ou d'érotique là-dedans, avec le zoom Canon qui est un bon zoom ouverture de 8 constant à plus de 1 500 €. Et il s'est avéré qu'à une focale moyenne, les bords de l'image sont flous. Et en utilisant un vieil objectif Nikkor, une focale fixe de 55 mm, à mise au point manuel, donc un objectif qui a plus de 10 ans, j'ai de bien meilleurs résultats sur les bords qui sont très nets et sur le centre qui l'est aussi.
Là aussi, on retombe peut-être sur les spécificités du métier, parce que quand tu fais un reportage, par exemple, généralement, les bords sont flous, dans le sens où sur les bords, tu es sur des zones que tu veux rendre floues, alors que toi, une spécificité de ton métier, c'est que tu as besoin que ce soit net.
Dans les quatre coins et au milieu en même temps, oui.
Si on parle de ton métier de photographe, donc la reproduction d'une œuvre d'art, comment est-ce qu'on aborde ce type de sujet ?
Donc il y a deux manières de travailler. Les jours de fermeture du musée, on va travailler dans les salles pour prendre en photo tout ce qui est immobile, des grandes statues qui pèsent 2-3 tonnes. C'est plus simple que le photographe se déplace plutôt que de déplacer l'œuvre. Des grands tableaux, on ne va pas déplacer les noces de canard, c'est le photographe qui va bouger. Le reste du temps, on va travailler en réserve sur des œuvres plus petites qui vont être amenées au photographe. Photographe qui, lui, amène quand même dans cette réserve du matériel, puisqu'il y a très très peu de studios équipés dans les musées. C'est-à-dire qu'un marbre ou un plâtre, on va essayer de mettre un éclairage très dur pour faire ressortir tous les détails de l'œuvre, la touche du sculpteur, les coups de marteau, les coups du burin, et ainsi de suite. Par contre, sur un bronze, il va falloir éclairer des parties qui sont noires, donc il va falloir avoir des grandes sources lumineuses.
D'accord.
Donc ça n'a strictement rien à voir. D'un côté, ça va être très ponctuel, peut-être avec des spots ou des bols calqués à la limite, mais de l'autre côté, ça va être des grandes boîtes à lumière.
D'accord.
Et je m'installe donc la plupart du temps dans une réserve ou dans un coin tant soit peu sombre pour voir avec les lampes pilotes ce que je peux faire. Et puis je commence à faire des photos. Et à côté de moi, souvent, il y a des conservateurs ou des documentalistes qui sont là pour veiller à ce que tout se passe bien et pour me donner des conseils d'éclairage ou pour me dire « j'ai besoin de voir cette partie ». Donc ça va être mon travail de photographe, d'éclairer le mieux possible pour faire ressortir les détails intéressants. Concrètement, on va carrément m'interdire, on va dire, sur une sculpture en marbre, d'avoir un des deux yeux noir. Les gens vont vouloir systématiquement que je montre du volume sur un visage, mais systématiquement, il va falloir que toutes les parties du visage soient visibles.
Ce qui n'est pas évident.
Non.
Ce qui est montré à la fois le volume, par définition, généralement,
c'est
la
l'inverse.
Technique, c'est de créer de l'ombre sur certaines parties.
Voilà, voilà. Donc on met une dizaine d'années pour comprendre ce qu'ils veulent. La difficulté aussi, c'est de comprendre le langage de l'autre.
Oui.
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de s'accorder avec les nouvelles personnes que je rencontre parce que j'ai commencé à intégrer leur langage. le départ est systématiquement, et je pense pour tout le monde, très compliqué. Puis plus on a travaillé sur des matières, plus ça devient facile de comprendre les demandes qui sont toujours récurrentes, qui sont toujours les mêmes, puisque les gens sortent des mêmes formations et de toute façon les images vont dans des catalogues qui sont la plupart du temps des catalogues internationaux. Donc on peut aussi s'inspirer de ce qui a été fait à l'étranger.
Est-ce qu'il y a des codes ?
Il y a des codes d'éclairage, on ne va pas non plus déformer un objet, c'est-à-dire que tout ce qui est focale courte, on va éviter au maximum. Beaucoup de gens sur les statues aiment bien les photos de face, la frontalité, ça fait partie de ce qui est le plus édité, on va dire. La retranscription la plus fidèle des couleurs, bien sûr. Mm-hmm.
Tu tournes autour d'un sujet ou tu fais...
La Joconde, je vais faire que la face et de temps en temps le dos, pour montrer l'état de la boiserie derrière.
Voilà. On se doute bien, effectivement, la Joconde, ça va être de face, mais je veux dire une sculpture.
Donc systématiquement, oui, c'est vrai qu'on fait 5 à 6 prises de vue sur chaque sculpture. D'accord. On tourne tout autour.
Il n'y en a qu'une qui va finir en carte postale.
Ouais, enfin, c'est presque toujours une face ou un trois quarts, avec une prédominance énorme de face. Hein.
Je regarde ici, là, c'est une reproduction de la Vénus de Milo, et on voit toute l'usure du temps, etc. Et je ne peux pas m'empêcher de contraster ça avec de la photo publicitaire et avec les portraits actuels où on va effacer tous ces défauts.
En fait, l'idée, si on peut se résumer, ce serait de montrer le plus possible les poches du mannequin sous ses yeux.
Oui, c'est exactement voilà,
pour, ça. Pour simplifier, c'est complètement l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir des éclairages très rasants pour montrer la présence de la pierre et justement faire à la limite ressortir l'usure du temps, puisque des pièces comme ça, on prête 2000 ans quand même. Mmh. Ce qui peut prouver que l'image est ancienne. Dans son esprit, l'image est ancienne. Mais le volume se dessine par des lumières assez dures quand même. Mmh. Après, chaque photographe va avoir son interprétation d'une œuvre. Moi, je préfère que les yeux soient bien visibles, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas le regard d'une sculpture, par exemple. Donc, ça va imposer systématiquement une lumière principale. Puis les autres lumières vont être là pour assister cette lumière principale et déboucher les ombres qui seraient trop marquées, qui partiraient trop au noir.
Donc, sur une photo d'une sculpture comme la Vénus de Milo, il y a combien de lampes ?
Donc là, il y a entre 4 et 6 sources de lumière. Sur celle-ci de tête, je crois qu'il y a 4 sources de lumière. Donc une lumière principale, en fait, c'est un grand parapluie, un jumbo, qui va éclairer la tête de la sculpture. Mmh. Il va y avoir un rappel de lumière fait par un deuxième parapluie qui va éclairer la jambe de la sculpture. Et puis, il va y avoir 2 sources en contre-jour pour la décoller du fond noir, pour garder un liseré continu depuis le haut jusqu'en bas de la sculpture. Puis il n'y a pas beaucoup de différence de puissance entre la lumière qui est à gauche du visage et à droite du visage. Là, on est en train de regarder une image imprimée. L'image d'origine est moins contrastée, est beaucoup plus douce que ça. Par contre, ce qui se vend, c'est quelque chose de plus péchu, de plus contrasté. Donc, à l'impression, il remonte le contraste.
D'accord, d'accord. Tu parlais des fonds.
Quand c'est des fonds noirs, ça va être, s'il y a de la place dans la pièce, ça va être un fondu au noir naturel, c'est-à-dire que la lumière va se concentrer sur l'objet, et puis comme les flashs ne vont pas éclairer 10 mètres derrière, le fond va devenir noir. Sinon, y a beaucoup de fonds gris dégradés aussi. Ça, la plupart du temps, c'est des fonds papier. Et puis, si les fonds papier ne suffisent pas, ou si les ombres sont disgracieuses, ou si l'objet était posé sur une palette, on va détourer. Sachant que chaque image, maintenant, va être un tant soit peu retravaillée, ne serait-ce que pour être sûr de la colorimétrie.
Et pour un tableau ?
Ah là là, alors là ça dépend des tableaux.
Donc là on est sur la Joconde.
Donc on est sur la Joconde. Sur celui-là, il y a 4 lumières qui sont 4 parapluies. Le problème était de montrer le tableau dans son intégralité, sachant qu'il y a un petit rebord tout autour qui fait de l'ombre très rapidement sur la couche picturale. Donc il ne faut pas que l'ombre soit trop marquée. Il ne faut pas non plus qu'on voit toutes les craquelures de la peinture, craquelures qui sont innombrables. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il y a un éclairage assez doux et donc 4 sources qui pour répartir uniformément de la lumière dans les 4 coins du tableau. Mais d'autres tableaux, comme des Van Gogh, La Nuit étoilée par exemple, de tête, va être éclairé complètement différemment pour justement faire remonter la touche de Van Gogh.
Voilà.
Pour qu'on voit l'épaisseur de la couche picturale. Plus les tableaux vont être modernes et plus le peintre ou l'artiste va s'exprimer
en 3 dimensions.
À partir d'une troisième dimension, d'une épaisseur, même si c'est sur une œuvre théoriquement en deux dimensions, plus il va falloir montrer justement son travail, et donc plus l'éclairage va être contrasté et moins il y aura de sources de l'autre côté, ou si les sources sont présentes, elles vont être beaucoup moins puissantes.
En termes de temps de pose, au diaphragme, profondeur de champ, il y a des contraintes ?
C'est les mêmes contraintes qu'ont tous les photographes, c'est-à-dire que quand on récupère un nouvel objectif, on regarde à pleine ouverture ce qu'il vaut, on ferme d'un diaph, on fait une photo en ferme d'un diaph jusqu'à ce qu'on arrive au diaph le plus fermé, et puis on estime, puisque j'ai pas beaucoup d'instruments de mesure, quel va être le meilleur diaph, et puis après, pour simplifier, je bloque le diaphragme à cette valeur et je fais varier la lumière en fonction de la puissance des flashs. Point. Donc je vais toujours travailler sur un moyen format entre 16 et 16,5. Mmh. Sur des 24-36, ça va être entre 8,5 et 11,5.
Ok, écoute Hervé, merci pour cette conversation que moi j'ai trouvé très très intéressante.
Merci Benoît d'avoir écouté patiemment.
Mais c'était
le langage d'un photographe d'œuvres d'art, photographes qui sont rarement interviewés, c'est vrai. C'est pas aussi flatteur que photographe sportif ou surtout photographe de mode, mais... Je connais certaines sculptures qui quand même sont parfois dénudées.